Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Vous êtes bien connecté sur
Mon Paris FM Olympique
2024.
Bonjour Awa Sangaré, bonjour Monsieur Traoré. Nous sommes ici au Paris Média Centre et vous allez nous parler de votre parcours. Vous êtes créateur et on va revenir tout de suite sur votre parcours. Je vais commencer par Awa Sangaré. Bonjour Awa Sangaré. Pouvez-vous vous présenter? Quel est votre parcours? Comment en êtes-vous à choisir le métier de créatrice? D'où venez-vous?
Ok, donc moi je me présente, je suis Awa Sangaré et donc j'ai créé un chantier d'insertion. Awa au féminin, et j'ai créé une marque de mode aussi, Awa Paris. Et d'où je viens, moi je suis psychologue clinicienne à la base, donc je viens du monde de l'insertion. Je viens vraiment du monde de l'insertion. J'ai commencé il y a plus de 20 ans à accompagner les personnes éloignées de l'emploi. Et j'ai travaillé dans plusieurs structures, que ce soit dans les entreprises d'insertion, pour les allocataires du RSA, pour les jeunes, en prison, en centre de détention. Donc j'ai travaillé, j'ai vraiment tout fait dans l'insertion. Et ce qui m'a poussé à me mettre dans la mode, c'est que je constatais que les femmes se précarisaient de plus en plus et qu'il y avait un décalage entre quand on parle d'égalité femmes-hommes et la réalité du terrain, bah, c'était deux choses complètement différentes. Moi, ce que je voyais, ce que je rencontrais, c'était des femmes de plus en plus isolées, des femmes monoparentales habitant à l'hôtel sans hébergement, des femmes qui ont perdu toute estime d'elles-mêmes, confiance en soi, communication, elles n'y arrivent plus, et des femmes qu'on culpabilise parce qu'elles n'arrivent pas à se remettre dans le marché du travail. Donc j'avais vraiment cette volonté de créer un support d'activité qui pouvait permettre à ces femmes-là de s'émanciper et d'accéder à une autonomie. Et après, on pourra parler vraiment d'égalité femmes-hommes. Et donc,
justement, cet accès à l'emploi, quand on est en situation précaire et qu'on cherche un emploi, c'est aussi l'apparence qui compte. Et l'apparence, ça passe par le vêtement aussi. Et ce vêtement, si on n'a pas beaucoup d'argent, vous pouvez un peu faire illusion, mais des fois, vous ne pouvez pas forcément le faire. Et c'est un peu là l'idée que j'ai envie de développer avec vous. C'est justement comment vous, avec vos créations, vous avez permis à ces femmes de pouvoir se vêtir.
En fait, avec mes créations, moi ce que j'ai surtout fait, c'est lutter contre le gaspillage vestimentaire. Donc c'est de sensibiliser des marques qui avaient des stocks de vêtements dormants, donc des stocks de vêtements, et de les récupérer. Et avec les marques de luxe, j'ai récupéré leurs tissus pour créer des vêtements. Donc j'avais deux axes. Il y avait l'axe de récupérer les vêtements neufs, parce que moi je suis vraiment sur le neuf. Donc des vêtements neufs de marque qui ne vont plus utiliser, plutôt que de les jeter ou de les garder en stock, de me les donner. Donc il y avait deux axes, les vendre dans la boutique en ligne et aussi permettre à mes salariés de pouvoir s'habiller gratuitement et de retrouver une estime, une confiance en soi. Et en même temps, il y avait cette volonté de travailler avec les marques de luxe et de récupérer leurs tissus de stock dormant. Et moi, ce que je leur ai dit, c'est donnez-moi vos tissus, donnez-moi vos fins de stock. Moi, je crée du beau et je crée de l'emploi et de l'emploi pérenne. Donc, c'est ce que j'ai fait.
Et justement, ces maisons de mode, ces grands créateurs, ces maisons de luxe, comment elles ont réagi quand vous êtes venus les voir?
Elles ont aimé l'idée parce qu'en fait... pour elle, il y avait une volonté aussi de les sensibiliser à ce que c'était que l'insertion. Parce que souvent, quand on entend le mot insertion, personne en difficulté, il y a une espèce de connotation négative. Donc, elles sont dit, c'est clair qu'elles se disent, si on donne les tissus, est-ce qu'ils vont pouvoir les valoriser? Il y a quand même, c'est quand même notre ADN, voilà. Quand ils sont venus déjà dans notre atelier, parce qu'on est installé dans un superbe atelier dans le 13e à Berlier, et ils ont été épatés par l'atelier. La première chose qu'ils m'ont dit, ah ouais, tu n'es pas une association, t'es une start-up. J'ai dit non, on est vraiment une association, mais il y avait cette volonté de prôner le bien-être et la bienveillance au travail. Et quand on se sent bien dans son lieu de travail, c'est plus facile de s'insérer, c'est plus facile de stabiliser et c'est plus facile de créer aussi du beau. Donc c'est ce qui a aussi impressionné. C'est ce qui a aussi démontré le côté très professionnel. Il y avait cette partie sociale, mais il y avait aussi ce côté très professionnel de faire des choses qualitatives, de faire des choses durables et d'être dans cette nouvelle économie circulaire. Et ça leur a plu. C'est ça qui leur a donné envie de nous donner. Et puis on a fait notre premier défilé. Quand ils ont vu ce qu'on était capable de faire, leur retour, ça a été « Ah ouais, on t'accompagne, on te donne parce que tu mets en valeur nos tissus. C'est une vraie fierté pour nous de te donner, c'est une vraie fierté pour nous de t'accompagner. » Et surtout quand on voit que derrière, il y a de l'emploi, il y a du beau et nos tissus sont respectés comme on le voulait, il n'y a pas photo. Donc le pari, il a réussi.
Et du coup, à l'heure de la fast fashion, justement, où on consomme beaucoup des vêtements, et notamment, pas que, mais sur Internet, où on achète comme ça en masse, enfin, quand je dis « on », vous comprendrez que ça peut être un public en général. Votre initiative, comment elle s'inscrit, j'ai envie de dire, et comment les personnes qui peuvent, entre guillemets, bénéficier et vos employés réagissent?
Qu'est-ce que vous observez même dans la société, peut-être?
Ce que j'observe dans la société, ouais, moi, je ne vais pas cracher sur la fast fashion. Je ne crache pas dessus parce que, en fait, pour avoir accompagné des personnes éloignées de l'emploi, quand vous n'avez pas l'argent et quand vous avez un tout petit peu d'argent, vous voulez être comme tout le monde. C'est quoi être comme tout le monde? C'est avoir l'impression de pouvoir consommer. Et c'est vrai que la fast fashion, elle répond à ça. Après, moi, mon objectif, c'est de sensibiliser les personnes. C'est les sensibiliser sur cette économie circulaire, sur le fait de la seconde main, sur le fait de des tissus. Moi, vous voyez, mes salariés, au départ, quand on avait plein de tissus, je leur demandais de se servir. Au tout début, même quand ils voyaient les vêtements, ils disaient « non, c'est bon, on n'en veut pas ». Au bout de 6 mois, quand ils ont compris comment on pouvait déstructurer, comment on pouvait reconstruire, comment on pouvait transformer un vêtement, ben maintenant, ils l'ont utilisé, ils utilisent ça, ils créent leur propre garde-robe, ils se créent des vêtements, ils arrivent à upcycler et retransformer des vêtements à eux. Donc, ils comprennent comment on peut faire durer un vêtement et comment on peut lui donner une seconde vie. Donc, quand vous êtes sensibilisé les personnes sans passer par un mode de stigmatisation, oui, la fashion c'est mauvais et puis nous on est éco-responsable, il faut plutôt aller dans l'éco-responsabilité. C'est pas donné à tout le monde d'être dans l'éco-responsabilité et c'est pas donné à tout le monde d'avoir aussi cette conscience. Donc, il y a vraiment un travail de sensibilisation, de mettre en place des ateliers, de montrer aussi tout ce que nous, en tant que jeunes créateurs, on est capable de faire. Et c'est comme ça qu'on va y arriver, en fait. Moi, je suis plutôt dans ça, dans la communication. C'est pour ça que je suis avec vous aujourd'hui, parce que plus on va communiquer, plus on va parler, et plus les personnes vont être sensibilisées, et plus les personnes éloignées de l'emploi vont être sensibilisées, et on va réussir à changer ça.
Et justement, vous avez aussi été accompagné par la ville de Paris, la ville de Paris, excusez-moi si je ne vous dis pas de bêtises. Comment ça s'est passé, cet accompagnement?
Déjà, je n'en serais pas là sans la ville de Paris. On a vraiment, moi, pour avoir tourné dans plusieurs départements, je ne pensais pas que j'allais être autant accompagnée à Paris. Moi, je suis venue avec mon idée, je suis venue avec mon projet que j'ai écrit, qui est sorti de mes tripes. Et j'ai expliqué mon projet et tout de suite, j'ai eu une écoute et une réactivité où on m'a proposé un accompagnement, où on m'a offert d'intégrer Berlier, et ce qui a été une chance inouïe pour nous, où on est subventionné aussi pour pouvoir démarrer. Donc ça, c'est la mise en lumière aussi, le fait de me permettre de faire des défilés dans les salons de l'hôtel de ville et d'être visible comme ça et de montrer ce que l'on est capable de faire et comment on peut associer le social au glamour. Quand je dis le glamour, c'est tout ce qui est derrière la connotation de la mode. C'est juste génial et j'en serais pas là aujourd'hui sans cet accompagnement, et on continue encore d'être accompagné, dire que on en a besoin, et moi je travaille toujours en partenariat, c'est mon essence, c'est ce qui fait ma personnalité, et c'est ce que j'ai trouvé à Paris, donc je suis très contente.
Bonjour Monsieur Traoré, je suis ravie de vous accueillir, de vous interviewer. Est-ce que vous pouvez vous présenter, nous parler de vous?
Oui, bonjour. Donc moi, je suis Mossi Traoré, créateur de mode depuis maintenant une quinzaine d'années. Et je suis aussi fondateur d'une école de haute couture inclusive qui s'appelle les Ateliers Alix, donc qui forme pas mal de publics, allant des jeunes et des bénéficiaires des minima sociaux sur des métiers d'excellence et notamment les métiers de la main. Et donc voilà. Puis je travaille aussi en tant que consultant avec différentes industries qui sont concernées par des enjeux de déchets et de pollution pour développer de l'innovation textile.
Alors justement, ce que vous soulignez tout à l'heure sur les métiers d'excellence, je me permets de rebondir là-dessus parce que j'étais là quand il y a eu la conférence sur la mode en août avec notamment LVMH. Qui a une école des métiers d'excellence et qui va aussi recruter des jeunes. Il peut y avoir parfois, avec le luxe, une idée un peu préconçue que finalement, ça ne s'adresserait pas à n'importe qui, que ces métiers peut-être seraient réservés à certaines personnes. Et en fait, c'est tout à fait le contraire. Est-ce que peut-être vous pouvez réagir là-dessus? Ces métiers d'excellence, justement, c'est du savoir-faire, c'est tout un tas de choses.
Je pense que pour que un jeune issu de la banlieue ou un jeune issu des quartiers prioritaires, ils découvrent cela, il faut aussi que les acteurs de la mode, de la création aillent vers eux. Moi, j'ai connu la mode, c'était en piquant des jeans. Donc, j'ai pas attendu que la mode vienne à moi. J'ai escaladé le mur, j'ai regardé dans la cour et puis j'ai sauté dedans. Mais c'est vrai que je me rends compte que ce soit le monde de l'art, de la création, de la culture, les quartiers populaires ne sont... Moi, j'ai pas eu des parents qui avaient les moyens de m'emmener à l'Opéra de Paris. J'ai dû aller moi-même toquer aux portes de l'Opéra de Paris pour y vivre mes propres expériences. Et en fait, quand j'ai découvert ce monde-là, la première chose que j'ai eu envie, c'est de le partager avec mon monde, en fait. J'ai envie que les gamins de mon quartier ils découvrent c'est quoi l'Opéra Garnier, c'est quoi l'Opéra Bastille. Enfin voilà, j'avais envie que les jeunes de mon quartier n'aient pas peur de pousser les portes des galeries d'art du Marais, qu'ils n'aient pas peur de pousser les portes des boutiques de l'avenue Montaigne ou de la rue du Faubourg Saint-Honoré. Et du coup, en fait, c'est une responsabilité qui doit être portée par tous, par l'État, par les acteurs sociaux, par les institutions et par la profession. Et je pense qu'aujourd'hui, si on veut sensibiliser en tout cas les jeunes, parce que si les jeunes ils sont éduqués que par les réseaux sociaux et qu'on leur montre que la culture de la réussite rapide, de la facilité, il faut qu'en parallèle, on les éduque avec la culture de l'effort. Et cette culture de l'effort, c'est aussi de valoriser les métiers de la main, les métiers de l'ombre. Et je trouve qu'aujourd'hui, on va mettre beaucoup en avant certains métiers dont je ne vais pas citer les noms, au détriment de ceux qui, dans l'ombre, contribuent au succès des créateurs de mode, des marques de luxe, etc. Donc les jeunes, il faut leur donner envie d'aller vers ces métiers-là. Moi, je rencontre beaucoup d'artisans avec lesquels je travaille. Je leur dis, la relève, tu l'assures comment ? Je ne sais pas si mon fils aura envie de se lever à 5h du matin comme moi. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les gamins, aujourd'hui, on ne leur montre pas la beauté de ces métiers, on ne leur montre pas la beauté du geste. Et aujourd'hui, je pense que le gros du challenge, que ce soit même pour les écoles de mode, parce que le but, ce n'est pas de vendre du rêve. Le but, c'est de rendre le rêve accessible. Et ça, je trouve qu'il y a encore un gros travail à faire de la part de tous.
Justement, depuis votre adolescence, vous m'expliquiez, vous avez découvert la mode en piquant des jeans. Est-ce que vous avez observé une évolution de la part de ces acteurs, peut-être de la part de l'État ou d'autres acteurs, pour aller justement vers ces jeunes, par exemple dans ces quartiers prioritaires de la ville ou dans des quartiers parfois un peu difficiles, ou même dans d'autres quartiers, pour justement les attirer vers ces métiers, les sensibiliser à la culture en général, comme vous me disiez, l'Opéra Bastille, l'Opéra Garnier?
Je pense qu'en fait, ça dépend des porteurs de projets. Ça dépend de la volonté. Par exemple, Awa, quand je vois son parcours, elle vient du même département que moi. Et je sais qu'elle a galéré, elle a trimé, mais elle a eu des résultats. Mais en fait, je pense qu'aujourd'hui, ça dépend beaucoup trop de la volonté, de l'état d'esprit et de l'ambition du porteur de projet. Alors qu'aujourd'hui, ça doit être vraiment des politiques concrètes où il doit avoir des vrais moyens mis à disposition et qu'un porteur de projet ne doit pas être quelqu'un qui doit sacrifier sa vie personnelle, ses deniers personnels pour amener du bonheur et favoriser l'égalité des chances, favoriser l'insertion professionnelle. Aujourd'hui, travailler dans l'insertion, c'est pas à la portée de tout le monde parce que faut avoir les tripes. Moi, par exemple, j'ai été lauréat d'un prix en dame, du prix Pierre Berger. C'était une dotation de 100 000 euros qui devait m'aider à développer ma marque. En fait, toute cette dotation, je l'ai sacrifiée pour faire de l'insertion. Donc, ça ne m'a pas aidé pour ma marque. Et j'ai investi tout ça pour faire de l'insertion. Alors que normalement, ça n'aurait pas dû être dans ces conditions-là que je devais faire les choses. Donc, j'estime qu'aujourd'hui, l'État, les institutions, que ce soit au niveau local, départemental, régional. Et en fait, pour moi, l'insertion, ça ne doit pas se résumer à... à des projets où des publics bénéficiaires des minima sociaux, à des politiques de la statistique. On doit faire des parcours d'accompagnement de qualité. Quelqu'un qui rentre dans une structure d'insertion, il doit avoir le droit de rêver peut-être un jour de rentrer chez Dior, chez Chanel, chez Jean-Paul Gaultier, et pas se dire s'il a fini dans les espaces verts de la municipalité locale ou autre, tant mieux, il a trouvé un emploi. Et puis non, c'est... En fait, moi, ce n'était pas ma conception de l'insertion. Moi, l'insertion, c'est que j'avais vraiment envie d'apporter aux gens ce que moi, je n'ai peut-être pas pu avoir quand j'étais plus jeune. J'ai dû batailler moi-même pour payer mon école de mode, me taper un prêt étudiant. Et là, du coup, tu commences tout de suite avec un boulet ta vie professionnelle. Donc, ça me faisait plaisir vraiment d'offrir à autrui ce que je n'ai peut-être pas pu avoir. Et ce que j'ai envie, c'est que les gamins de mon quartier, les gamins issus des quartiers prioritaires et tout jeune ou tout adulte qui rêvait de travailler dans la mode se disent bah, si j'y crois et que je me donne les moyens, les portes me seront ouvertes. Du moins, après, il faut aussi. C'est des métiers, il faut être bosseur, il n'y a pas de secret. Faut... D'apparence, on pense que la mode, c'est bling-bling, c'est claquant. C'est... Mais nous, on passe beaucoup plus de temps dans la boue que sous les projecteurs. Et donc, j'estime voilà, ça doit être une prise de conscience collective. Donc, ceux qui ont envie d'aller vers cette industrie-là, ben, ils doivent s'en donner les moyens. Et ceux qui sont là pour aider à grimper, à faire la courte échelle, ben, aujourd'hui, il faudrait qu'il y ait quand même un peu plus de moyens. Et qu'on comprenne aussi que des parcours d'insertion vers la mode sont différents de certains parcours d'insertion classiques et que ça nécessite en fait d'autres ingénieries de projet.
Merci beaucoup.
Au plaisir.